Bonjour Pierre Aski, donc vous
Bonjour.
êtes journaliste français, cofondateur et collaborateur de Rue 89. Vous avez travaillé au journal Libération, vous avez été leur correspondant à Jérusalem, puis en Chine, à Pékin, où vous êtes resté 5 ans. Vous y teniez un blog, Mon journal de Chine, et aujourd'hui encore sur le site donc, de Rue 89, vous êtes très engagé dans les questions chinoises. Donc je voulais vous poser une première question concernant la méfiance aujourd'hui que l'on peut ressentir, que les gens ont par rapport au journalisme, donc que vous évoquiez dans dans la conférence qui a précédé à propos des révolutions populaires et des nouveaux médias. Donc je voulais vous demander pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui les gens ont plus de méfiance vis-à-vis des journalistes?
Je pense d'abord que c'est un phénomène ancien qui n'est pas lié au développement d'Internet. On a souvent tendance à parler de la crise de la presse. Pour moi, il y en a deux qui sont distinctes. Il y en a une qui est la crise économique de la presse, un changement de modèle avec notamment l'émergence du numérique, et l'autre qui est une crise morale, qui est une crise de défiance du public vis-à-vis des journalistes, et qui n'est pas propre à la France. Dans chaque pays, il y a ses caractéristiques, mais on ressent la même chose aux États-Unis, on voit la même chose en Grande-Bretagne. À chaque fois, les journalistes sont devenus, se sont autoproclamés ou ont été cooptés dans l'élite politico-administrativo-économique qui dirige le pays. Et ça a été vécu par les citoyens comme une perte de sens, une perte de la raison d'être du journalisme, qui était, quand on parlait du quatrième pouvoir, c'était les journalistes, c'était ceux qui allaient porter le fer dans la plaie, qui allaient chercher à trouver, à décrypter, à révéler ce que les puissants cherchent à cacher. Et dans cette vision peut-être un peu simpliste de la mission du journalisme, on a vu tout d'un coup les journalistes passer de l'autre côté, c'est-à-dire finalement s'asseoir dans un confort de situation. Et finalement, tout ça a été symbolisé aussi par exemple, les mariages entre journalistes et politiques, par des affaires qui ont fait que les citoyens ont eu le sentiment que le journalisme ne le représentait plus. Et cette perte-là, je pense, a coûté très cher aux journalistes.
C'est arrivé quand cette crise morale à peu près? Vous pouvez le dater ou?
Je pense que ça remonte globalement aux années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a eu un embourgeoisement du journalisme, peut-être par la sociologie aussi du recrutement, par le fait que un certain nombre d'entreprises de presse ont été avalées par des grandes entreprises, par le fait aussi que les années 80, c'est les années de l'argent roi, c'est le début de la financiarisation du monde. Et paradoxalement, ce sont aussi les années de la gauche au pouvoir en France, qui n'a pas su et qui n'a pas compris comment se transformer, comment finalement continuer à changer le monde dans ce monde qui est plutôt que d'être changé par le monde. Et donc ça fait quand même 2 bonnes décennies.
D'accord. Et donc comment Rue 89 parvient à briser donc cette méfiance de ses lecteurs?
Alors nous, on a un point de départ qui est totalement pragmatique, c'est que vous avez dit que j'avais un blog. Le point commun entre les quatre fondateurs de Rue 89 qui sont partis de Libération, c'est qu'on était blogueurs. Et donc Pascal Richet, Laurent Mauriac avaient un blog aux États-Unis et Arnaud Aubron avait un blog à Paris et moi donc un blog en Chine. Et de cette expérience commune, on a tiré 2 leçons. La première, c'était la force de l'interactivité pour le journalisme, c'est-à-dire en termes de contenu, et que cette force nous semblait totalement inexploitée et non reconnue par les médias traditionnels, y compris Libération, où nous étions à l'époque. Et la deuxième, c'était notre capacité, à travers cette interaction avec nos lecteurs, à renouer un contrat de confiance avec eux. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer, qui est mon vécu, je ne suis pas un théoricien, c'est que sur Internet, on se met à poil, sans se figurer, on est beaucoup plus exposé face à ses lecteurs. Pour moi, la première révolution d'Internet, c'est la place du lecteur. Le lecteur est en face de nous. Il est exigeant et il nous le montre et nous le dit. Et donc, à partir du moment où vous établissez un contrat de départ avec lui, quand vous créez un média, si vous ne respectez pas ce contrat, il vous casse, il vous le fait savoir, il vous sanctionne. Et c'est ce rapport vertueux qui est en train d'être établi sur Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous respectez le contrat, vous faites ce que vous avez dit, bah, votre lecteur méfiant devient votre principal défenseur. Et c'est ce rapport très délicat, cette construction, je dirais, abstraite, enfin, on a, qui, y a pas un contrat signé, etc. Mais,
il y a une charte quand même.
Il y a une charte, mais là, on part d'un rapport psychologique qui se déroule entre le site et ses lecteurs et entre chaque auteur et ses lecteurs. Et c'est ce changement-là que, je pense, la presse traditionnelle n'a pas compris, n'a pas intégré. Le simple fait, vous voyez, c'est tout petit, mais de répondre aux commentaires. Vous avez quelqu'un qui vient sous votre papier et qui vous dit « vous vous trompez sur tel truc » ou « je ne suis pas d'accord avec votre point de vue ». Dans un média traditionnel, personne ne va lui répondre. 90% des journalistes des grands journaux français ne savent même pas qu'il y a des commentaires sous leur papier, ils ne vont pas les lire. Parce que la modération n'est pas faite par les auteurs, elle est faite par un organisme qui externalise ça au Maroc ou à Madagascar, et on modère les commentaires au kilomètre pour voir qu'il n'y a pas d'insultes ou pas de propos racistes. Nous, on modère nous-mêmes nos commentaires. Les auteurs regardent les commentaires et ils répondent. Et le simple fait de répondre aux commentaires, c'est un signe de respect. Et ça change toute la donne. Et c'est le début de la confiance.
D'accord. Donc, les nouveaux médias, donc, c'est Internet qui crée une nouvelle culture politique. Ce sont les réseaux sociaux. Ça a été vu particulièrement dans les révolutions populaires arabes. Je voulais vous demander, est-ce que ces nouveaux médias n'excluent pas certains lecteurs, finalement, parce que tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde ne sait pas comment marche Twitter. Est-ce que ce n'est pas réservé à une certaine frange de la population et un lectorat assez...
Je ne crois pas. Je crois qu'on on atteint aujourd'hui quand même des tailles de masse très importantes. D'abord, on est dans un pays où effectivement il reste une fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a une partie du pays qui n'accède pas ou accède difficilement à Internet. Mais on est quand même dans des chiffres aujourd'hui où la grande majorité des Français a un accès à Internet, soit de manière très simple avec la DSL à la maison, soit au travail, soit sur des téléphones. Bref, l'accès est quand même largement majoritaire aujourd'hui en France. Et deuxièmement, nous, notre travail en tant que plateforme d'information, c'est justement d'être un médiateur. C'est-à-dire qu'effectivement, Twitter, c'est un outil un petit peu élitiste pour l'instant, qui touche à peu près 3 millions de personnes en France, qui sont beaucoup des gens qui sont dans la technologie, le journalisme, la politique, l'action sociale en général. Nous essayons justement d'être la passerelle entre cet univers-là, c'est-à-dire ce qui se dit, ce qui peut se dire dans cette passerelle-là, dans cet univers-là, en direction de ceux qui n'y sont pas. C'est-à-dire que quand nous traitons d'un sujet qui a fait l'objet d'un débat ou sur lequel des informations sont passées par Twitter, par exemple, nous en faisons l'écho dans nos articles, donc dans le corps de l'article. Donc pour des gens qui, sans doute, ne vont pas aller traîner sur Twitter pour voir ce qui s'y passe. Ça permet de pallier ce fossé culturel. Mais en même temps, si vous regardez Facebook, par exemple, vous avez 23 millions ou 24 millions de Français qui sont sur Facebook. Il n'y a pas un autre lieu en France qui fédère les gens autant. Peut-être la feuille d'impôt, mais positivement, il n'y en a pas. Le journal télévisé, qui était la grande messe dont on parlait autrefois, aujourd'hui n'atteint pas ces chiffres-là parce que vous avez une dispersion des modes d'information en France. Donc, Facebook est un lieu... qui aujourd'hui rassemble 23 millions, si vous excluez les enfants et les personnes âgées, c'est 2 Français sur 3, quoi. Donc c'est considérable.
Sur Rue 89, donc vous avez des articles écrits par des journalistes professionnels de votre équipe, et vous publiez aussi des articles d'amateurs qui vous envoient, enfin des articles. Ouais. Donc je voulais vous demander, est-ce que ça ne requalifie pas un peu le rôle du journalisme professionnel? Comment ça se passe? Comment les échanges se font ?
Vous savez, il y a quelques années, quand on a démarré, en fait, il y avait une vraie guerre sur Internet entre deux mondes. L'un, c'était celui des médias traditionnels, où les journalistes disaient « nous, on a une carte de presse, on est les seuls légitimes pour parler ». Et de l'autre côté, vous aviez la blogosphère qui disait « Internet a donné la parole à tout le monde, la technologie permet à tout le monde de prendre la parole, on n'a plus besoin des journalistes, de cette caste nuisible d'intermédiaires que sont les journalistes ». Et nous estimions que les deux avaient tort. les premiers, donc les journalistes professionnels, parce qu'ils ont effectivement perdu le monopole de la parole. Et j'ai envie de dire par rapport à votre première question, c'est tant mieux, parce qu'ils ont perdu peut-être le droit à garder ce monopole de la parole. Donc de ce point de vue-là, les journalistes ont tort de vouloir créer une citadelle fermée en disant nous, on est les seuls à pouvoir parler et les autres sont des usurpateurs. De l'autre côté, je pense, et je le pensais en 2007 et je le pense encore plus aujourd'hui après quelques années d'expérience sur le web, que dire que les règles du journalisme, un, sont inutiles sur Internet, ou deux, sont innées et peuvent être partagées par tous, c'est aussi prendre le risque d'une information de moins bonne qualité. Et donc, il nous semblait en 2007, et c'était le pari de Rue 89, que si on mariait les deux mondes au lieu de les opposer, on pourrait produire non seulement une information de meilleure qualité, parce qu'elle aurait à la fois le professionnalisme des journalistes et la vigueur citoyenne des lecteurs, mais qu'en plus, elle serait plus légitime, parce que les citoyens seraient partie prenante dans le processus de fabrication de l'info, qu'en tout cas, ils ont cette possibilité. Tout le monde n'a pas envie d'y participer, mais en tout cas, la porte leur est ouverte. Et dans ce cas-là, l'information, ils en feraient la leur. Et quand on a démarré, pour être très franc, on avait peur d'une chose, c'est que nous, on avait mis en place des procédures dans lesquelles le journaliste avait quand même le dernier mot, donc avec des règles professionnelles et déontologiques. On avait pris l'engagement qu'aucun contenu ne serait mis en ligne sans avoir été validé par un journaliste. Et on l'a tenu, et c'est ce qu'on fait jusqu'à ce jour. Et on avait peur que les gens nous disent « Mais pourquoi c'est encore les journalistes qui gardent la clé de contact ?»« Ça suffit, vous avez usurpé votre pouvoir. » Et en fait, il s'est passé exactement le contraire. Je pense que ça a rassuré les gens de venir dans un lieu où effectivement, ils avaient une prise de parole respectée. On leur donnait la prise de parole, mais en même temps, il y avait des garde-fous, et donc ils étaient dans un lieu qui n'était pas un lieu de rumeur, de manipulation, etc. On leur donnait l'engagement que, voilà, comme dans toute aventure humaine, il peut y avoir des erreurs, mais en tout cas, elles n'étaient pas dues au fait qu'il n'y avait pas de règles. Et ça, c'est très important, parce que quand vous avez aujourd'hui un univers d'information qui est ouvert à tout vent, c'est-à-dire que où effectivement tout le monde peut s'exprimer, vous avez aussi un besoin de validation, de cohérence, de donner du sens. Et beaucoup de gens viennent vers nous, non pas pour avoir l'information initiale, mais en disant, voilà, j'ai entendu dire que, j'ai entendu ça, il va y avoir telle réforme, le gouvernement va faire ça. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Pourquoi ils font ça? Donc, un vrai lieu de validation. Nous, c'était un peu notre idée, c'est que dans ce chaos créatif, qu'est l'Internet, qui est formidable de bouillonnement, mais avec le meilleur et le pire, il fallait des lieux où les gens viennent en confiance. Comme aujourd'hui, quand vous allez dans un kiosque, vous savez que Gala, ce n'est pas la même chose que le monde diplomatique, parce que vous avez fait partie de votre éducation, d'une certaine manière, et ce sont des codes qui se perpétuent depuis des décennies. Sur Internet, ces codes, on ne les a pas encore, parce que c'est un univers encore récent, Et vous allez savoir de plus en plus, ça a bien commencé, que si vous allez sur le site du Monde ou sur le site de Rue 89, ce n'est pas tout à fait la même chose que sur le site de tel blogueur qui a ses qualités mais qui n'a pas forcément les règles journalistiques, ou pire, de telle plateforme qui est une plateforme de propagande pour tel ou tel courant de pensée, etc. Vous allez pouvoir savoir naviguer dans cet univers-là. Et lorsque vous voulez avoir une information vérifiée, est-ce que la photo de Ben Laden, c'est vraiment la photo de Ben Laden ou pas? Est-ce que la réforme de la fiscalité, c'est un leurre ou c'est une vraie réforme de la fiscalité? Vous allez aller vers des lieux où, par habitude, vous savez qu'on ne vous a pas menti par le passé, qu'on vous a donné une information de qualité, que vous vous y reconnaissez aussi culturellement parce que c'est votre univers. Voilà, nous, on a l'ambition d'être un de ces lieux.
En fait, donc, le rôle du journaliste est presque accru, en fait, puisqu'il a un rôle de validation et d'analyse. C'est lui qui fait le tri, en fait, sur Internet, sur tout ce qu'on peut voir, sur l'information brute, en fait.
Moi, je pense qu'effectivement, le rôle du journaliste est d'autant plus accru et crucial que l'accès à l'information est ouvert. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur Twitter aujourd'hui, vous pouvez être en contact direct pour la première fois dans l'histoire de l'information, avec les acteurs de l'information. Il n'y a pas de filtre entre la parole de Monsieur X ministre et la vôtre citoyen, ou la parole de Barack Obama qui a son compte Twitter et vous, entre un acteur de la révolution égyptienne et vous. Donc cette absence de filtre fait que vous avez accès à cette parole brute. Mais cette parole brute, c'est quoi? C'est de la communication, c'est pas de l'information. C'est-à-dire que c'est pas parce que M. Éric Besson vous dit que le plan industriel pour les 5 prochaines années est formidable et va créer 14 millions d'emplois que c'est vrai. Donc si vous vous contentez de cet accès direct à une parole de communication, vous êtes foutu parce que vous allez vous allez être bombardé de choses qui les arrangent peut-être, mais qui ne sont pas nécessairement de l'information. Donc le travail du journaliste, il est d'autant plus difficile, je pense, aujourd'hui, qu'il doit savoir que ses lecteurs ont accès aux mêmes informations que lui. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi le plan de M. Besson qui nous raconte du vent, mais moi, j'ai les moyens, parce que c'est mon travail, de vous dire ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans son plan. Et vous, qui avez lu son tweet qui dit « Regardez mon plan, mon beau plan, il n'est pas beau, il va créer plein d'emplois », vous pouvez ensuite aller voir les journalistes en qui vous avez confiance et leur demander « Mais c'est vrai ou c'est faux ?»
D'accord. J'avais une question. Vous parliez de la photo de Ben Laden, par exemple. Dans le rapport à l'image, donc j'imagine que vous reliez pas mal d'images, pas mal de buzz, de vidéos. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté voyeuriste? Moi, je pense par exemple à cette vidéo que vous avez longuement commentée, la vidéo qui choque les Chinois. Est-ce qu'il n'y a pas un côté... relayer le buzz et voyeurisme qui est un petit peu...
Il y a ce risque, et je pense que l'information est voyeurisme par nature depuis qu'elle existe. C'est-à-dire que je pense que les gens qui gravaient sur des blocs de marbre à l'époque grecque, c'était aussi du voyeurisme. Enfin, j'exagère, je caricature. Mais je pense que c'est une... c'est dans la nature même de l'information. Maintenant, il y a du voyeurisme qui a du sens, qui est celui de vous montrer des choses qui vous font réfléchir et qui ont du sens par rapport au, là, parlons de la Chine par exemple. Et il y en a qui est gratuit, qui est par exemple la presse people. La presse people, c'est du voyeurisme totalement gratuit. Franchement, qu'est-ce que... moi, je n'en ai strictement rien à cirer du type d'information qu'il y a dans la presse people. Et je ne pense pas qu'elle amène du sens au fonctionnement du monde. Elle est distrayante et on a le droit de se distraire. Mais il y a peut-être des meilleurs moyens de se distraire. En revanche, montrer une vidéo tragique, qui était donc cette gamine qui a été écrasée par une camionnette, et qui est dans l'indifférence des passants, etc. Et qui a provoqué un vrai débat de société sur la nature de la société qui est en train d'émerger dans la nouvelle Chine, néo-capitaliste, mais toujours un peu communiste, etc. Je pense que ça a du sens pour comprendre aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans le pays, qui est en train de devenir la puissance numéro un de la planète, et dont on voit bien qu'elle façonne beaucoup de choses dans les rapports internationaux. L'Europe lui demande de l'aider à s'en sortir, à sauver l'euro. Donc, on a un besoin vital de comprendre les forces qui sont en jeu dans la société chinoise. Et donc, à la fois, je pense que moi, quand je l'ai vu, j'ai été scotché d'horreur, comme les Chinois eux-mêmes qui sont mis à commenter. Et je pense que ça a du sens de la montrer à nos lecteurs. En revanche, il y a effectivement des images d'horreur pure ou de choses plus futiles, qui ne change rien à la compréhension du monde, qui ne change rien à l'information en général et qui sont du pur gratuit. Est-ce qu'on résiste toujours à la tentation de donner ces images-là? Je mentirais si je disais oui, parce que la tentation est parfois forte, parce qu'on sait que ça va amuser nos lecteurs, que ça nous a amusé nous, et qu'on se dit si ça nous a amusé, ça va amuser nos lecteurs, et que voilà, on n'est pas des blocs de vertu qui sont capables d'empêcher de se faire plaisir.
Donc une dernière question pour conclure. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas montrer dans la presse papier. Est-ce que vous pensez que la presse papier est vouée à s'éteindre petit à petit, et est-ce qu'il faut s'en attrister finalement?
Je ne sais pas si elle va disparaître. Je pense que oui. dans les grandes lignes, en tout cas la presse quotidienne, parce qu'elle elle est menacée d'archaïsme absolu. Et contrairement à l'idée reçue des dernières années où on disait le show c'est pour l'urgence, etc., c'est pour le web, et le réflexif et les papiers longs, etc., c'est pour le papier, moi je pense qu'il n'y a rien qui puisse aller en presse écrite, papier, qui ne puisse pas aller sur le web. Sur le web, on peut faire de l'analyse,
Bien
des
sûr.
reportages longs et prendre son temps pour écrire. Je veux dire, il y a strictement aucune règle qui nous en empêche de le faire. Donc, de ce point de vue-là, lorsque l'équipement sera plus largement répandu, lorsque les changements générationnels aussi évolueront, etc., je pense qu'effectivement, les archaïsmes du papier aujourd'hui, ce que j'appelle archaïsme, c'est la lourdeur incroyable du
Du
processus d'impression
dispositif.
et de distribution, qui en plus en France est en crise avant même Internet, est condamné. Moi j'habite place de la République à Paris, c'est-à-dire en plein cœur de Paris. Le kiosque qui était au bout de ma rue n'a pas rouvert après l'été. Donc si je veux acheter un journal dans la zone, l'une des zones les plus peuplées de Paris, il faut que je fasse un détour avant de rentrer dans le métro. Bon. Là où je travaille, 5 stations plus loin, au mois de mai, je suis allé acheter un journal. Le kiosquier m'a dit, ah, j'avais mal au dos aujourd'hui, j'ai demandé qu'on ne me livre pas. Il a fermé, il n'a jamais rouvert depuis. C'est-à-dire que dans Paris intramuros, la capitale de la France, le kiosque de là où j'habite et le kiosque de là où je travaille ont fermé. Alors, moi, je veux bien que la presse écrite soit l'avenir de l'humanité, mais si on ne peut pas l'acheter alors qu'on peut accéder à l'information différemment, je suis désolé, mais le lecteur, il ne fera pas le détour pour aller acheter le journal. Si le journal n'est pas sur son chemin, il ne le lira pas. Alors, il y a des tas de tentatives de pallier ça par le portage, par d'autres méthodes, mais regardez les tablettes qui sont en train d'émerger comme un lieu majeur. On voit bien, là, avec les fêtes qui approchent, la
Bien
tablette va
sûr.
être, maintenant qu'il y a des tablettes à 200 €, on change de catégorie, c'est plus l'objet de luxe de Happy Few comme l'iPad, ça va devenir un objet de consommation plus courante, pas encore un objet de masse, il faudra attendre encore un petit peu, mais ça a été le sort finalement de toutes les technologies. Les smartphones étaient des objets de luxe il y a seulement 3 ans, et aujourd'hui, c'est la norme absolue de tous les renouvellements de téléphone, et il n'y a plus cette barrière. Voilà. Donc, quand ces outils-là seront généralisés, la concurrence sera déloyale,
Déloyal.
c'est-à-dire que on arrêtera peut-être de couper des arbres en Finlande. Je racontais ça au débat parce que ça me fait marrer, mais de penser que il y a 20 ans, on a planté des arbres en Finlande pour imprimer les journaux d'aujourd'hui. C'est formidable parce qu'en plus c'est du papier recyclé, puis c'est des forêts qui sont faites, enfin pas du papier recyclé, mais du papier de forêts gérées,
Oui.
éco-gérées. C'est-à-dire que ce sont des forêts qui sont faites pour le papier, donc tout ça est très bien. Mais l'idée qu'on coupe des arbres qui ont été plantés il y a 20 ans, qu'on les transforme en pâte à papier, en rouleaux, qu'on va les amener de Finlande à la France pour aller dans des grosses usines et qu'ensuite il y a des camionnettes qui vont sillonner tout le pays pour amener les journaux, alors que de l'autre côté, on va faire clic et ça sera sur votre écran. Il y a un moment
C'est laborieux.
où ça sera un peu difficile de plaider pour le papier.
Bon, bah merci beaucoup Pierre Aski,
Merci.
je vais vous laisser aller déjeuner
Merci.
finalement.
Merci.
Merci.